L'enfant et l'animal, une relation pleine de ressources.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret.
C'était hier la journée mondiale des animaux. Tous les ans, c'est le 4 octobre, une occasion, s'il en fallait une, de parler de l'extraordinaire rôle de l'animal dans la vie des enfants. La ministre de l'Environnement vient d'annoncer la fin progressive des spectacles incluant des animaux sauvages. Alors nous parlerons de la faune sauvage et de la biodiversité, mais nous allons surtout nous intéresser aux bêtes les plus proches de nous, les animaux domestiques. Et nous allons le faire avec trois invités. Le pédopsychiatre Daniel Marcelli, qui a dirigé l'ouvrage à qui j'emprunte le titre de ce numéro d'Être et Savoir, une relation pleine de ressources. On va le faire aussi avec l'éthologue Marine Grand-Georges, qui observe les enfants avec les lunettes de sa discipline, et le professeur de psychiatrie Ludovic Jiquel, qui nous expliquera comment les animaux peuvent concrètement aider les enfants et les adolescents qui rencontrent des difficultés psychologiques. Et bien sûr, nous parlerons de l'omniprésence des animaux dans les fictions jeunesse. Nous nous intéresserons pas seulement à la fonction symbolique ou celle de figure d'identification dans les fables, contes et histoires, mais aussi à un autre super pouvoir des personnages incarnés par des bêtes, celui de faire lire les enfants. Et ce sera avec Colas Gutmann, notre quatrième invité, donc le créateur d'une des stars du bestiaire contemporain des jeunes lecteurs, Chien pourri. Et on commence avec notre question d'actualité de la semaine, la fête de la science. Armelle Rancillac, bonjour.
Bonjour Louise.
Vous êtes neurobiologiste spécialisée dans la détermination des mécanismes de régulation du sommeil. Voilà qui est fort intéressant, c'est à l'INSERM. Vous êtes aujourd'hui au Centre interdisciplinaire de recherche en biologie du Collège de France et cette année ambassadrice de la fête de la science. Une fête de la science qui se tient dans un contexte bien particulier puisque de science on en parle beaucoup grâce ou plutôt à cause de l'épidémie de Covid-19.
Exactement, c'est pour ça que cette année, on a une large programmation virtuelle. Cette semaine, samedi en particulier, donc, j'ai été sur en direct science, une émission co-animée donc par l'INSERM, sur le site de l'Esprit Sorcier, où on est en plateau et on fait intervenir différents interlocuteurs pour parler vraiment du travail qu'ils font en recherche. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'on a quand même, comme ça, l'impression d'avoir une immersion au cœur de la science.
On sait que l'orientation dans les filières scientifiques est encore très genrée. Est-ce que c'est important d'être une ambassadrice et une scientifique présente dans cet événement qui s'adresse largement, pas seulement, mais largement aux enfants?
Alors je pense qu'effectivement c'est très important de montrer qu'il y a des exemples aussi de réussite chez les filles donc et les femmes par la suite. Parce que dans la science, il y a encore beaucoup de préjugés, de stéréotypes qui sont tenaces. Et souvent, il y a un trait de caractère chez les jeunes filles qui font que, bien qu'elles soient très intéressées et même qu'elles aient de meilleurs résultats en classe que leurs confrères masculins, elles ne se sentent pas légitimes. Et il y a beaucoup plus d'autocensure chez les jeunes filles comparé aux garçons. Et donc, c'est en ça que je pense que c'est important d'en parler, d'en prendre conscience pour qu'il y ait un peu une levée de cette inhibition et que les jeunes filles osent. Et car il faut savoir qu'on voilà, on peut mener une vie professionnelle très intense et très riche tout en ayant des enfants. La majorité des femmes dans mon environnement professionnel ont des enfants et ça se passe très bien.
Qu'on en ait ou qu'on n'en ait pas, quand on est une femme scientifique, c'est bien de le rappeler. La semaine dernière, on apprenait que les résultats des petits Français, des élèves français en mathématiques, avaient singulièrement baissé ces dernières années. Ce n'est pas la première fois que les résultats de l'école française en mathématiques et en sciences paraissent particulièrement bas. Relativement, on connaît les évaluations internationales telles que PIRLS et TIMSS, qui disent également que le niveau relatif de notre école est en baisse. Que pensez-vous de tout cela en tant que scientifique?
Alors, en tant que scientifique, effectivement, moi, j'ai tendance à toujours vouloir m'amuser. Et même quand je fais des sciences très fondamentales, qui peuvent paraître très compliquées, pour moi, ça s'avère et ça relève vraiment principalement du jeu. Et je pense que souvent, peut-être chez les jeunes, quand ils abordent la notion des mathématiques, ils ont l'impression que ça va être un univers très formel, stéréotypé, difficile d'accès, de par les règles qui le structurent. Mais il faut savoir qu'en fait, peut-être que les professeurs pourraient présenter cette manière de façon un peu moins formelle et montrer que même avec les mathématiques, on peut jouer, on peut s'intéresser, faire des nouvelles découvertes, jouer avec les concepts et retrouver du plaisir dans la matière. Je pense que c'est ça un peu qui manque aujourd'hui peut-être dans l'éducation des jeunes, c'est de montrer qu'il n'y a pas qu'avec les smartphones qu'on peut se détendre et jouer.
Et j'indique que la fête de la science, ça se déroule jusqu'au 12 octobre et que sur l'antenne de France Culture, ce mercredi 7, nous parlerons de ce que le Covid fait à la science à l'occasion donc de cette fête de la science.
France Culture, être et savoir, Louise Touret.
Et nous parlons de la relation animal-enfant dans cette émission avec nos différents invités. Alors je vous indique que pour cause de Covid, de distance et d'obligation, on n'a pas pu les réunir en studio. On a toutefois, avec Philippe Baudouin, réalisé l'émission avec beaucoup, beaucoup de soin. Vous allez entendre Marine Grand-Georges, éthologue, maîtresse de conférence HDR à l'université Rennes 1 au laboratoire Ethos, éthologie animale et humaine. Le professeur Ludovic Jiquel qui sera avec nous en duplex depuis France Bleu Poitou. Il est chef du pôle universitaire de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescence au centre hospitalier Henri Laborie à Poitiers. Et puis Daniel Marcelli, il est aussi pédopsychiatre, professeur émérite de pédopsychiatrie, président de la Société française de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et discipline associée et auteur notamment d'un ouvrage que j'ai lu avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, L'enfant, l'animal, une relation pleine de ressources. Et c'est Daniel Marcelli qui commence par nous parler de cette proximité entre l'enfant et l'animal.
Très souvent, les parents appellent leur enfant et leur bébé « mon petit loup, ma petite puce, mon petit lapin ». D'un mot animalier, voilà. Même mon petit loup, hein, voilà. Donc effectivement, l'enfant a quelque chose de la proximité. Et je crois qu'au début, par définition, l'enfant ne parle pas. Le bébé ne parle pas. Or, l'animal, lui, ne parle pas. Les bébés sont des lecteurs d'émotions. Ils connaissent les émotions, ils savent lire les émotions sur le visage parental. Parfois même avant même que le parent lui-même ait entendu sa propre émotion, ait su reconnaître son émotion. Donc les bébés et les animaux sont extrêmement attentifs aux émotions. Le langage des animaux, c'est un langage émotionnel. Dresser les oreilles, hérisser les poils, c'est la crainte, la colère, l'agressivité, la peur, au contraire le ronronnement, le plaisir de se lever. Donc il y a un monde émotionnel affectif très intense et les enfants, ils sont très sensibles.
Alors l'éthologie, vous le savez, c'est la science des comportements des espèces animales et donc logiquement, enfin plus ou moins, l'éthologie s'intéresse aux enfants et c'est ce que fait donc Marine Grand-Georges.
En tant qu'éthologue, on s'intéresse au comportement des enfants puisque une des grandes questions que l'on se pose dans cette science, c'est quelle est l'ontogénie d'une espèce. Donc l'ontogénie, c'est-à-dire comment un individu de l'espèce se développe tout au cours de la vie. Donc quand on s'intéresse aux êtres humains, forcément on s'intéresse à cette période de l'enfance qui nous permet de comprendre quand se met en place certaines compétences, est-ce que certains comportements apparaissent avant d'autres, etc. Donc pour les étudier, on a des techniques d'observation. On regarde l'enfant dans son milieu naturel, ça peut être à la maison, avec les parents, avec ses pairs à l'école ou par exemple avec des animaux. On a des méthodes très standardisées, on utilise des grilles, on a ce qu'on appelle des éthogrammes qui nous permettent d'avoir la liste des comportements d'intérêt.
Des comportements d'intérêt aussi entre les enfants et les animaux. Il y a un attachement du lien et une communication privilégiée, Daniel Marcelli.
Un enfant qui ne parle pas ou un enfant qui est encore au début du langage, il a peut-être gardé cette dimension émotionnelle, cette dimension comportementale. Et je pense que c'est comme ça qu'il communique avec les animaux. Et donc il a un canal des canaux de communication qui sont spontanément beaucoup plus proches que l'adulte qui, lui, est encombré par son langage. Et qui effectivement voudrait. Alors quand faut écouter par exemple les personnes âgées, c'est assez comique. Elles parlent à leur animal en permanence, mais l'animal, alors les personnes âgées, il comprend tout ce qu'on lui dit. Je ne suis pas convaincu que l'animal comprend au sens qu'il comprend le langage. En revanche, il comprend la musique de la langue, la manière dont on articule, il comprend l'intonation, il comprend les gestes qui accompagnent ce qu'on dit à l'animal. Et ça, ils ont une intelligence comportementale, et certains chiens, tout à fait étonnante. Donc voilà, c'est pour ça qu'on croit qu'ils comprennent le langage. Mais l'enfant, lui, il est directement dans le comportement.
Il y a des animaux qui vivent parmi les hommes, les animaux domestiques, vous en parliez, Daniel Marcelli. Ces animaux, ils sont pour les enfants des animaux qui les éduquent et des animaux que les enfants éduquent aussi. Il y a une relation qui a trait aussi à l'apprentissage.
Passé la toute petite enfance, où domine la dimension affective, en particulier avec le doudou qui a souvent une forme d'animal, la peluche. Donc, passé cette petite enfance, quand l'enfant accède à l'âge de raison, comme on dit, entre 5 ans et demi, 6 ans, 7 ans, ce qui est intéressant avec l'animal, c'est qu'il est un support de préoccupation et d'intérêt. L'enfant va demander qu'est-ce qu'il mange, va éventuellement sortir le chien, va s'occuper de le soigner ou de s'en occuper régulièrement. Et donc, ça développe chez l'enfant ce que j'appellerais un bon souci de l'autre, une forme d'empathie. Il y a aussi un élément extrêmement intéressant avec l'âge, quand l'enfant grandit, les animaux ne parlent pas. Et quand on parle à l'animal, on est sûr qu'il ne va pas aller raconter à quelqu'un d'autre les secrets qu'on lui a dit. Donc les enfants de 6, 7, 8 ans, 9 ans, quand ils sont en colère ou quand ils sont tristes, ils prennent leur animal familier et ils leur racontent tout ce qu'ils ont sur le cœur. Et cet animal est un animal fidèle puisqu'il n'aura pas raconté aux autres tout ce qu'on lui a raconté. C'est un élément dont on n'a pas toujours conscience mais qui est très important.
La communication entre l'enfant et l'animal est bien sûr très riche.
Marine Grand-Georges.
Les mécanismes sous-jacents à cette communication mais aussi à ces relations et aux bénéfices que les enfants en tirent peuvent être pluriels. Alors, celle qu'on cite le plus souvent, c'est que l'animal est non jugeant et donc permet à l'enfant de se développer avec un regard bienveillant sur lui, même si c'est le regard d'un animal. Pour autant, il ne faut pas oublier qu'il y a des mécanismes qui peuvent inclure des aspects physiologiques. En effet, les dernières études en éthologie montrent par exemple que lorsqu'on regarde un chien dans les yeux, on va sécréter plus d'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement pour faire court. Et donc, plus on va regarder son chien, plus on va sécréter cette hormone de l'attachement, qui est aussi une hormone du bonheur, et par là tirer des bénéfices de cette relation à l'animal. Ça passe aussi par des mécanismes sensoriels. La communication avec l'animal passe par les cinq sens, le toucher, l'auditif, ça peut être aussi le goût. Et du coup, cette sensorialité qui est décuplée avec l'animal, sans la sphère verbale, permet le développement de nombreuses compétences chez l'enfant. Interagir avec l'animal peut être un support des apprentissages. En jouant avec le chien, on va pouvoir apprendre à lancer une balle. En changeant la litière de son cochon d'Inde, on apprend les règles d'hygiène. Donc vraiment, les interactions sont un support des apprentissages, et ça dès le plus jeune âge. Je vous ai parlé de l'ocytocine, mais on peut aussi parler d'une autre hormone qu'on appelle le cortisol, qui en résumé est un peu l'hormone du stress. Souvent, le cortisol est présent quand la personne se sent pas bien, se sent stressée dans une situation négative. Et on a pu montrer qu'en présence d'un animal de compagnie, que ce soit son propre animal, mais aussi un autre animal, l'enfant va réduire cette hormone de stress et donc se sentir mieux. Les mécanismes qui existent dans cette communication entre l'animal et l'enfant sont assez multiples et se superposent. On a cet aspect non jugeant, on a cet aspect physiologique, et c'est cet ensemble qui permet de construire cette richesse de la relation.
Et pour les plus petits, est-ce que L'animal domestique peut représenter une figure d'attachement. On connaît l'importance de ce terme aujourd'hui dans la psychologie de l'enfant. Alors, c'est une figure importante, c'est de l'amour, c'est de l'affection.
Effectivement, l'attachement tel que Bowlby l'a décrit va bien au-delà de l'attachement entre la mère et l'enfant ou entre le père et l'enfant, et il va aussi avec certains objets du monde. Alors, objets inertes ou vivants, l'enfant est attaché à son doudou, et quand il le perd, c'est un drame. Et de même, quand il a, dès la naissance, un animal avec lui, un petit chat, un chien, et qu'il grandit avec cet animal, et que quand cet animal vient à mourir, quand l'enfant a 10-11 ans, eh bien, il y a vraiment, effectivement, un vrai deuil, une vraie perte. Donc oui, les enfants sont assez puissamment attachés à leurs animaux domestiques, surtout quand cet animal était là dès la naissance de l'enfant et qu'il a assisté aux premiers quatre pattes, à la première marche, etc. Même les chats qui ont des actes d'affiliation, c'est-à-dire ils viennent se frotter contre vous, ils viennent se lécher, ils ronronnent. Les petits enfants sont très sensibles à cet aspect peluche et doudou et cette chaleur. Et le chat est contre eux et ils ont un attachement émotionnel, un attachement sensoriel très fort. Et quand le chat disparaît ou qu'il est écrasé ou qu'il meurt, les enfants peuvent avoir des vraies réactions dépressives. La force des animaux, c'est que ils vous demandent rien. Ils sont à côté de vous et ils ont une sorte de constance émotionnelle, de constance affective. Si on les traite avec bienveillance, si on les traite gentiment, l'immense majorité des animaux sont extrêmement gentils. Bon, il faut faire attention, il y a quelques animaux agressifs et violents à cet égard-là. Je ne sais pas si vous savez, ça pourrait presque être l'objet d'une réflexion. Les morsures des chiens aux enfants ont doublé pendant la période de Covid. Il y a eu deux fois plus de morsures de chiens chez les petits-enfants pendant la période de Covid. Je vous l'apprends.
Ah oui, complètement. Et alors, à quoi vous l'attribuez?
Le confinement. Le chien, il était confiné. Les enfants, ils devaient être sur l'animal en permanence, parfois peut-être l'agacer, etc., etc. Peut-être qu'il y avait aussi des chiens agressifs qui vivaient au milieu de tout le monde. Bref, par exemple, au CHU d'Angers, les morsures de chiens ont doublé en fréquence par rapport à la période standard.
On a parlé de la mort de l'animal. C'est une énorme responsabilité pour les parents de faire entrer un animal dans la vie de ses enfants, parce que cet animal, il a une durée de vie plus courte. Alors on pense aux hamsters, aux cochons d'Inde, aux petits animaux qui conviennent bien aussi à la vie en appartement et qui sont très amusants et qui ne vivent pas très longtemps. Est-ce qu'on peut, en tant que parent, imposer ça à son enfant, lui faire le cadeau d'un être qui va mourir?
Je trouve très intéressante votre émotionnalité de journaliste et la question que vous posez de est-ce que la responsabilité parentale d'offrir un petit hamster qui risque de mourir au bout de 18 mois, 2 ans? Et vous dites, au fond, la vie, la vie précisément, il y a la mort. Il n'y a pas de vie sans mort. Et au fond, permettre à un enfant de comprendre, s'attacher à son hamster, et puis le hamster va mourir, bon, on va faire un rituel, les parents le savent bien, on le met dans une boîte, etc., etc. Et puis on attend un petit peu, et puis l'enfant est un peu triste, et puis on en achète un autre, on achète un poisson rouge ou autre chose. Eh bien, l'enfant comprend que c'est ça aussi la vie. C'est qu'il y a la vie, il y a la mort, il y a d'autres, une succession de générations. Et je crois que c'est un élément extrêmement important du bien-être humain. Nous sommes tous des êtres mortels. Et alors, il ne s'agit pas de penser à la mort tous les jours, il ne s'agit pas d'exhiber la mort en permanence. Mais peut-être qu'aussi, il faudrait la réintroduire dans la normalité de la vie. Voilà. La mort n'est pas une anomalie. La mort fait partie de la vie. Et je crois que c'est un élément que les enfants peuvent comprendre et accepter, même si ça la donne un petit peu d'anxiété. L'objectif dans l'éducation, c'est pas de protéger l'enfant de tout, c'est de faire en sorte que quand un événement plus ou moins négatif arrive, cet enfant ait les armes pour le surmonter, les armes psychologiques, et pour être plus fort après. Si vous mettez un enfant dans un cocon en permanence, le moindre événement négatif va être une catastrophe.
Ce qui est fou, c'est qu'entre le moment où j'ai réalisé cette interview et aujourd'hui, mon petit chat est mort. Il avait 20 ans. Alors, je laisse de côté mon émotionnalité de journaliste. J'ai voulu demander à Marine Grandjean ce qu'on développe, ce qu'on apprend aux côtés d'un animal domestique.
Le contact avec un animal domestique peut développer plein de compétences chez l'enfant. Un animal va permettre à l'enfant de développer des compétences d'interaction et notamment d'ajuster ce qu'on appelle son répertoire comportemental. Lorsqu'il interagit bien avec l'animal, que ses comportements sont adaptés, par exemple des caresses douces, du jeu, l'animal va rester avec lui et en cela, ce sera un renforcement positif. Par contre, si l'enfant a des gestes non adaptés, va le taper, le faire mal, l'animal va fuir, voire peut-être être agressif, ce qui est des cas un peu plus rares, et donc ses comportements ne seront pas renforcés. On voit l'animal vraiment être une aide pour l'enfant dans sa construction de ses modes de communication. Le contact avec un animal domestique a aussi d'autres impacts positifs dans la vie de l'enfant. Il va pouvoir l'aider dans sa construction émotionnelle, à développer ses capacités d'empathie, donc à être capable de prendre en considération le point de vue de l'autre, les émotions de l'autre. Il va aussi l'aider dans son estime de soi. Le fait de pouvoir s'occuper d'un autre être vivant, par exemple s'occuper de son chien, s'occuper de son chat, lui permet de se dire « je suis capable de faire » et donc de renforcer son estime de soi. Il ne faut pas oublier l'impact moteur, physique de l'animal, et ça dès le plus jeune âge. On a tous déjà observé des enfants qui commencent à se déplacer à quatre pattes et qui sont très motivés pour pouvoir se rapprocher du chien ou du chat de la famille. Et à différentes étapes de ce développement moteur, l'animal est vraiment une source de motivation pour l'enfant. Par exemple, dans l'activité physique, sur des enfants un peu plus âgés, 4 ans, 6 ans, ou même des adolescents, le fait d'aller pouvoir jouer avec le chien en extérieur avec le ballon, de jouer avec une petite souris à attraper pour le chat. Mais on trouve d'autres choses avec des animaux tels les nacs, avec des hamsters, des chinchillas, ou encore des cochons d'Inde. Et enfin, il ne faut pas négliger l'apport cognitif de l'animal, parce qu'on peut faire travailler la mémoire, on peut faire travailler aussi le développement du langage. Il n'est pas rare que parmi les premiers mots prononcés par un enfant, ce soit le prénom de l'animal de compagnie.
Et non pas maman ou papa, enfin ça dépend, enfin cet animal il est présent parfois dans la vie des enfants, mais il est surtout beaucoup présent dans l'imaginaire, dans les livres, les dessins animés, comme une figure d'identification pour les enfants. Daniel Marcelli.
Ce qui est particulier, c'est qu'en même temps, ces animaux dans les dessins animés, dans les dessins, on les fait parler, ils n'arrêtent pas de parler. Et qu'est-ce qu'ils disent? Au fond, ils disent ce que l'enfant dirait, s'il pouvait parler parfois. « Oh, il m'embête, celui-là. Oh, papa, je l'aime, il m'a cassé les pieds. Oh, maman, je l'adore, etc. » Ils disent, au fond. Et l'animal est un puissant vecteur d'identification de l'enfant lui-même à lui-même. Il s'identifie pas aux adultes, qui sont plus grands, mais les animaux, en particulier les chiens, les chats, les petits animaux domestiques, les hamsters, etc., il y a une puissante identification de l'enfant à tous ces animaux. Il y a une exception, c'est l'ours, qui est un grand animal, mais l'ours, c'est le nounours, parce qu'il a une forme très humaine, très humanoïde, quand il se laisse sur ses pattes arrière et qu'il avance tout poilu, etc. Il a un côté humain de tout temps, d'ailleurs, même si c'est un animal redoutable. C'est en fait, dans les nounours, les peluches, tout ça, évidemment, c'est le monde des enfants. Donc il y a un puissant facteur d'identification.
Une histoire que Michel Pastoureau a très bien racontée, celle de l'ours et de son destin de nounours, finalement au début du XXe siècle. Dans les dessins animés récents, ceux que les enfants aiment aujourd'hui, les animaux choisis, ça peut être des ânes, trop, puis Peppa Pig, c'est un petit cochon. Je sais pas, des animaux qui ont très très bonne réputation pourtant.
D'abord, l'âne est un animal assez familier, c'est un peu comme le poney. Les enfants font pas complètement la différence entre un cheval, un poney, un âne. Et l'âne a la réputation d'être un animal assez doux. Certes, il est têtu, mais il est assez doux. Et en fait, il est têtu parce que c'est un animal beaucoup plus intelligent. Quand on dit un bonnet d'âne, il n'y a rien de plus stupide que ça, au sens propre du terme. Parce que l'âne est un animal qui réfléchit beaucoup, qui pense, qui avance après avoir choisi différentes stratégies. Voilà. Alors, quant au cochon, le petit cochon, les trois petits cochons, l'histoire des trois petits cochons, ça a quand même toujours été quelque chose qui a existé dans l'imaginaire enfantin. Et ça fait partie aussi de ces animaux de la ferme. Et c'est peut-être encore plus maintenant que les enfants ne connaissent plus les animaux de la ferme, les petits moutons, les poules, etc. Puisqu'il y a les fermes pédagogiques pour qu'ils en fassent connaissance. Et les fermes pédagogiques ont un succès énorme. Donc ces histoires avec des animaux de la ferme, je pense que c'est tout le vécu ancien de l'être humain. Il ne faut pas oublier que depuis des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, l'homme vit au milieu des animaux et les enfants vivaient au milieu des animaux. Dans les fermes, dans les hommes préhistoriques, ils étaient entourés d'animaux en permanence. Ce n'est que depuis qu'on vit dans les villes que d'une certaine manière l'animal a déserté l'appartement. Même si aujourd'hui il y a encore beaucoup d'animaux d'appartements, ça reste quand même moins fréquent en ville.
On va revenir aux animaux de fiction, et puis je repense encore à mon chat. Ce chat, en fait, c'était ma mère qui en avait pris la charge, parce que peut-être que ça ne me convenait pas très bien d'avoir un chat, et j'ai voulu demander à Daniel Marcelli comment bien choisir son animal domestique. C'est quand même un membre de la famille. Est-ce que ça dit quelque chose de la place qu'on lui attribue, chat, chien, animal plutôt mignon ou agressif, ce choix de l'animal domestique?
Évidemment que si on est dans les extrêmes, par exemple, si on prend ces chiens, ces Rottweiler, ou je sais pas, enfin, ces chiens extrêmement agressifs d'un côté, puis si on prend un petit lapin, Angora de l'autre, évidemment qu'on voit bien qu'il y en a qui est quand même dans le registre de la violence et de la morsure et de l'agressivité, et l'autre, la peluche. Alors, et oui, évidemment, mais en moyenne, il s'agit de chats, il s'agit de chiens, parfois de hamsters, d'animaux essentiellement à sang chaud. Et là, alors on met de côté peut-être le poisson rouge qui est autre chose, l'enfant le regarde dans son bocal, enfin voilà. Faut pas transformer l'animal en ce qu'il n'est pas. Un animal, il a sa vie, il a ses modèles de vie, ses mœurs, son éthologie qui doit être respectée. Donc il faut pas prendre des animaux extrêmement agressifs. De même qu'il faut faire attention à des animaux relativement âgés avec un petit enfant. L'animal âgé, il aime pas trop jouer, il aime bien être dans son coin, il supporte pas trop l'arrivée d'un nouveau qu'il ne connaît pas. En revanche, un enfant qui vient d'arriver, ou un petit enfant avec un animal nouveau-né ou un jeune, là, ils vont pouvoir presque grandir ensemble, et là, il n'y a pas trop, la plupart des animaux sont de bonne compagnie. Je pense en revanche qu'il faut faire attention, il faut pas non plus être angélique, et quand on va par exemple chercher un animal à la fourrière ou à la société protectrice des animaux, je crois qu'il est quand même bien de savoir ce que cet animal a vécu dans ses premières années, parce que quand même il y a des événements violents, agressifs, des animaux battus, tapés, qui peuvent effectivement devenir assez agressifs dès qu'on lève la main, même par exemple pour s'étonner, sans même chercher à lever la main sur l'animal, on va lever la main et l'animal va croire qu'on va l'agresser et le battre. Donc il faut quand même faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi quand il y a un petit enfant, d'autant plus que c'est un bébé, avec un animal. Il faut garder un petit peu de précaution. Il y avait un ouvrage d'un célèbre éthologiste qui s'appelait Conrad Lorenz, c'est d'ailleurs le fondateur de l'éthologie, qui avait écrit un remarquable petit livre qui s'appelait « Tous les chiens, tous les chats ». Et l'objectif de ce livre, c'était de dire au fond, le chien et le chat sont les deux animaux domestiques qui ont choisi le style évolutif le plus différent au contact de l'homme. Au fond, le chat, il a gardé ses habitudes, il est resté tel qu'il était probablement jadis, en étant à côté de l'homme, mais en changeant pas trop. Alors que le chien est probablement, à partir du chacal, l'animal qui s'est le plus humanisé au contact de l'homme. C'est deux stratégies complètement différentes, et en même temps, c'est deux stratégies qui font que ce sont deux animaux familiers au caractère très différent. Quand vous connaissez pas les chats, les gens disent « les chats sont indifférents ». Pas du tout. Les chats sont très très proches simplement, quand ils n'ont pas envie qu'on les caresse, ils n'ont pas envie. Voilà, ils vont pas venir, ils vont s'éloigner. Le chien, il est plus, je dirais, on a l'impression qu'il est plus relationnel, plus présent à l'autre. Mais j'ai vu des enfants jouer avec des chats de manière absolument étonnante, étonnante, et avec une vraie relation entre les deux.
Des centaines d'espèces animales disparaissent, la biodiversité est en danger, on l'entend très régulièrement, c'est tout à fait affolant. Et d'un autre côté, les animaux domestiques sont très populaires. En France, il y a des millions d'animaux domestiques. Ils sont également très populaires sur les réseaux sociaux. On pense aux chats qui sont en photo un peu partout et qui sont incroyablement mignons. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Ça m'inspire essentiellement une perte de contact avec la nature et le lieu d'évolution réel des animaux. Tous les animaux qui sont dansés sur Internet, etc., voire qui participent à ces concours de beauté. D'ailleurs, certains qui veulent défendre la cause animale sont en train de vouloir interdire ces concours de beauté sous forme de maltraitance. Donc, effectivement, il y a une forme d'humanisation parfois excessive d'animaux. L'autre jour, cet été, j'étais sur une plage, il y avait un chien qui avait une casquette, un truc pour le protéger du soleil. Vous voyez, c'est juste qu'il n'avait pas des lunettes de soleil. Bon, on en arrive parfois à des postures un peu absurdes. Voilà. À côté de ça, effectivement, il y a aucun respect du biotope naturel des animaux. Bon, pas vous faire un dessin sur la forêt amazonienne, sur les chamois dans les Alpes qui ont de moins en moins de place, sur le loup qui est à chasser parce que effectivement, etc., etc. Donc l'animal, dès qu'il dérange l'être humain ou dès qu'il occupe un espace que l'être humain lui convoite parce qu'il veut y construire des maisons, y faire passer des autoroutes ou je ne sais quoi. Bah, évidemment, l'animal est dans son biotope en danger. En revanche, l'animal qui accepte de vivre au contact de l'homme et qui partage nos environnements urbains, celui-là, il est bienvenu. Mais il est bienvenu à condition qu'il se transforme presque en un auxiliaire humain, c'est-à-dire que pas dans son aspect naturel, j'ai envie de dire. Voilà, c'est le paradoxe complet.
Butterfly Ball, Love is All, peut-être que ça définit aussi la relation entre l'enfant et l'animal. En tout cas, c'est notre sujet aujourd'hui dans Être et Savoir. Vous écoutez France Culture. On a parlé de cette relation comme d'une relation très riche, une relation qui peut aider les enfants. J'ai demandé à Marine Grandjean comment on s'était aperçu de tout cela, comment les scientifiques s'étaient aperçus de tout cela.
L'animal est vraiment aussi utile dans le quotidien de tous les enfants. pas seulement les enfants au développement typique, mais aussi les enfants présentant certaines fragilités ou certains troubles du développement. Si on vient sur un point historique, un des premiers qui l'a formalisé est Boris Levinson aux États-Unis, psychiatre, qui lors d'une consultation dans son cabinet avait son Labrador Jingle présent. Et son rendez-vous suivant était avec le petit Johnny, un garçon mutique, qui refusait de lui parler depuis plusieurs séances. Et la présence de Jingle a été un déclic, puisque ce petit garçon a commencé à parler au chien de Boris Levinson. Et le psychiatre s'en est servi de support pour permettre la communication avec lui et le garçon. De cette anecdote, en fait, s'est développé de nombreuses prises en charge pour ces enfants atypiques avec l'animal. Vous avez tous entendu parler de l'équithérapie ou notamment les chiens d'assistance pour les enfants aux troubles du spectre autistique. Mais on n'est pas obligé d'être dans une situation standardisée de thérapie ou d'intervention avec un professionnel pour voir tous les avantages que ces enfants au développement atypique peuvent tirer dans la relation avec l'animal de compagnie. À la maison, on a de nombreuses preuves scientifiques qui montrent que des animaux de compagnie aident les enfants à mieux communiquer, notamment pour ceux qui ont ces difficultés-là d'interaction sociale, que ça soit le chien, que ça soit le chat, ça c'est quelque chose qu'on a montré récemment dans notre équipe de recherche, c'est que les échanges de regards entre chiens et chats et les enfants avec TSA sont très présents et pourraient expliquer notamment l'amélioration de la communication de ces enfants qui vivent en présence des animaux. Bien entendu, ce n'est pas magique. Ce n'est pas parce que vous avez un enfant qui souffre de difficultés de communication que la simple présence de l'animal va l'aider à communiquer mieux, que ça soit avec l'animal ou avec les parents, les frères et sœurs ou à l'école. Donc voyez ça comme une potentielle aide, mais pas forcément comme une recette magique.
Ludovic Jiquel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en duplex avec nous depuis France Bleu Poitou. Je le disais, vous êtes chef du pôle universitaire de psychiatrie de l'enfance et de l'adolescence au centre hospitalier Henri Laborie. En quoi l'animal peut-il être une médiation dans le soin aux enfants en difficulté psychologique ?
Je rebondirais sur tout ce qui vient d'être dit, aussi bien donc du point de vue éthologique que par mon prédécesseur, le professeur Marcelli, sur le fait que c'est évidemment en s'appuyant sur toutes ces considérations que mes prédécesseurs donc se sont posé la question de mettre à contribution les animaux, différents types d'animaux d'ailleurs, pour médiatiser la relation avec des enfants qui, justement, présentent, comme ça a été dit, des problématiques d'interaction, de communication ou du lien plus généralement.
Qu'est-ce qu'on observe dans ces thérapies ?
Il se trouve que dans le pôle, je dirais, les thérapies ont lieu dans une structure qui est une petite ferme à la sortie de Poitiers et qui conjugue à la fois la médiation animale, mais aussi le jardin thérapeutique et aussi de la culinothérapie. Bon, enfin, l'accueil se fait sur la journée, c'est quand même assez ritualisé, organisé, structuré. Et la médiation animale, voilà, prend sa place de séance en séance, en fonction de comment va l'enfant à ce moment-là, comment se situe l'enfant dans le groupe, comment va le groupe, et élément effectivement fondamental, ce que l'on ne retrouve pas forcément dans les autres médiations, où je dirais le médiateur est plus inerte, comme les médiations culturelles, artistiques, ludiques et autres, et bien c'est comment va l'animal. Et donc, dès le départ, si vous voulez, il y a forcément ce nécessaire ajustement interactionnel entre l'enfant et l'animal. Et je dirais c'est tout un parcours dans une journée qui s'organise et qui va intégrer un ou plusieurs animaux en fonction d'ailleurs de ce qui a été prévu.
Mais ça doit changer pas mal de choses à l'intérieur de l'hôpital, pour les professionnels, pour les soignants aussi, de travailler comme cela. Le bénéfice pour les enfants, je crois qu'on arrive bien à comprendre. C'est quoi le bénéfice pour vous ?
Alors, le bénéfice pour nous, je dirais comme dans nombre de situations médiatisées, c'est de pouvoir accéder à l'enfant, de partir de là où il est pour justement l'amener vers un mieux-être développemental et je dirais personnel. Et je dirais, en partant de là, je dirais de nous adapter de là d'où est l'enfant. Et j'avoue que ce médiateur est quand même tout à fait intéressant, puisque d'abord, comme je vous dis, on a, alors c'est pas pareil de nettoyer ou de brosser un cheval, ou au contraire d'avoir un hamster dans le creux de la main. C'est pas pareil effectivement d'être confronté à un lama ou à des oies. Bon, donc forcément on adapte le médiateur animal là aussi en fonction de là où en est l'enfant, comment ça se passe, ce qu'on souhaite effectivement obtenir. Et voilà, il s'opère, je dirais, une relation qui intègre l'enfant, l'animal et le soignant.
Donc l'animal, il travaille aux soins dans le cadre hospitalier. Quel est son statut d'un auxiliaire de soins? C'est l'hôpital qui le gère au quotidien. C'est un professionnel du soin aussi?
Disons que c'est un co-soignant, on pourrait dire, d'une certaine manière. Bien évidemment qu'il faut les nourrir le week-end. Il faut, et pas que le week-end, d'ailleurs toute l'année, mais enfin notamment le week-end, alors que les structures bon, sont globalement fermées le week-end. Il faut effectivement veiller à leur bien-être. Et je pense que ça, c'est un élément fondamental aussi à préciser. C'est-à-dire que le souci des soignants, il est certes, bien entendu, d'être soignant vis-à-vis des enfants, mais aussi, je dirais, de le faire dans le respect et du bien-être et de la qualité de vie de l'animal. Après, eh bien, pour être un peu plus dans le détail, puisque là, on a aussi de la médiation canine qui, cette fois-ci, aura lieu au sein même de notre centre médico-psychologique. Donc là, on s'éloigne de la ferme. C'est l'animal qui vient vers les enfants. Et alors là, on va dire, c'est tout un cahier des charges, si on peut raisonner comme ça. Alors, c'est pas très, très poétique, mais enfin, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de conditions à respecter, si vous voulez, pour permettre à un animal, là en l'occurrence un chien, d'approcher des enfants.
Et du côté des parents, parce que là on a décrit une relation triangulaire avec l'animal, le soignant et l'enfant, mais il y a aussi des parents, est-ce que ce serait un conseil à donner, autant qu'on puisse le faire, aux familles dont les enfants vont mal, que d'adopter un animal pour aider l'enfant et comment on s'y prendrait dans ce cas-là?
Je pense que je serais assez prudent, si vous voulez, sur l'idée de, quelque part, de ramener du travail à la maison ou, je dirais, de poursuivre la relation qui peut s'opérer en hôpital de jour à la maison. D'abord, parce que c'est pas les mêmes liens, c'est pas les mêmes objectifs. Et puis, autant dans le premier cas, on est dans un cadre professionnel, autant à la maison, effectivement, c'est autre chose. Par contre, partir, je dirais, d'une situation familiale où il y a des animaux et, je dirais, dans les entretiens qui peuvent s'opérer avec la famille, les soignants et l'enfant, aborder la question justement au sein de la famille de la relation que l'enfant peut avoir avec tel ou tel animal. Moi, j'ai le souvenir d'une famille comme ça où le papa était très inquiet, il devait sans arrêt surveiller le chien parce que l'enfant faisait preuve de beaucoup de violence et de cruauté à l'égard de l'animal. Donc là, effectivement, c'était l'occasion de pouvoir échanger là-dessus et de ce que ça pouvait renseigner d'une certaine manière. Mais comme je vous dis, ce sont deux cadres bien séparés, on va dire, avec deux façons d'aborder l'animal, somme toute assez différemment.
Est-ce que ces thérapies à l'aide de médiation animale se répandent aujourd'hui? On a entendu avec Marine Grand-Georges que ce n'était pas tout à fait nouveau, mais tout de même, est-ce que ça prend son essor progressivement en France, en tout cas?
Alors, je sais que sur Poitiers, ça a été mis en place depuis 1998, formalisé au titre d'un hôpital de jour. J'ai moi-même eu d'autres expériences, notamment dans le nord-ouest de la France, où ils avaient carrément un haras au sein d'un hôpital psychiatrique de mémoire. Donc c'est sûr que ce sont des stratégies de soins qui se développent. Mais je dirais comme la médiation, d'une manière générale, se développe. Après, ce qui est intéressant, c'est que on a peut-être porté un regard moins anecdotique, occupationnel sur l'animal et davantage thérapeutique. Et d'ailleurs, pour ce qui nous concerne, je dirais, nous procédons à des évaluations justement, comme on dit, dimensionnelles, c'est-à-dire qu'on analyse les différentes secteur de fonctionnement de l'enfant et c'est une façon en quelque sorte d'évaluer séance après séance dans quelle mesure eh bien l'enfant peut progresser dans telle ou telle dimension avec évidemment toute la prudence qu'il y a à ne pas faire de lien que vous avez fait un peu trop rapide. Donc qu'on ne sache pas forcément, je dirais très précisément, le pourquoi du comment, c'est une chose. Pour autant que petit à petit, je dirais, on développe cette médiation parce qu'elle a montré son efficacité, ça oui, je pense que c'est appelé à se développer de plus en plus.
En tout cas, c'est assez passionnant. On peut en apprendre davantage en lisant les cahiers de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer. Merci beaucoup, professeur Ludovic Jiquel. À propos de cette fondation, elle organise aussi un colloque, ben, aujourd'hui même, c'était ce lundi, un colloque sur l'animal d'assistance judiciaire, cette fois-ci. Et c'était au ministère de la Justice, un exemple avec l'extrait d'un reportage sur un chien.
LOL est arrivé à Cahors voilà tout juste une semaine. Ce labrador de 3 ans est le premier chien d'assistance judiciaire à officier en France. Il a été dressé pour accompagner les victimes, notamment les enfants, tout au long de la procédure pénale, audition, confrontation et audience de jugement. LOL interviendra notamment dans les dossiers de tentatives d'homicide, de viol, d'agression sexuelle et de violence intrafamiliale.
Nous avons énormément de viols qui ne sont pas poursuivis. Ils ne sont même pas portés à la connaissance des autorités judiciaires parce qu'il est extrêmement difficile. Mais être accompagné par un chien va permettre de libérer cette parole, de se sentir accompagné, soutenu.
Libérer la parole, et oui, les animaux peuvent servir à cela. Alors, pour les victimes, et pas que les enfants, mais pour les enfants aussi. Le colloque dont je parlais, Marine Grand-Georges, y participe aujourd'hui. Je lui ai demandé comment ça avait commencé cette médiation animale dans le cadre judiciaire.
C'est le développement récent mené par l'association Handichien en France qui permet à des victimes d'être accompagnées tout au long du processus judiciaire par un chien d'assistance. C'est un projet et une histoire qui est née aux États-Unis il y a quelques décennies et qui a été apportée en France récemment. Ce chien d'assistance est vraiment éduqué pour permettre de mettre en confiance les victimes et de libérer leurs paroles lors des enquêtes au tribunal. Ça a déjà permis à de nombreux enfants d'être accompagnés sur des moments qui sont clés et difficiles, évoquer des violences qu'ils ont subies, des agressions. Et la présence du chien a ceci d'apaisant et de rassurant puisqu'il est là pour être le lien entre l'enfant et les différentes personnes qu'il rencontrera au moment des auditions, au moment du passage au tribunal et dans d'autres étapes du processus judiciaire.
Une relation pleine de ressources, on le disait, c'est le titre de ce numéro d'Être et Savoir, entre l'enfant et l'animal, quand l'enfant est en situation de fragilité, quand l'enfant est victime, on l'entendait, mais aussi pour tous les enfants, potentiellement, on l'a également dit, alors peut-on se passer d'animaux dans notre environnement? Et si mon fils, exemple pris totalement au hasard, me supplie d'avoir un chien, que dois-je faire et que devez-vous faire si vous êtes vous aussi dans cette situation? Daniel Marcelli, puis Marine Grand-Georges.
Un enfant qui réclame un chien avec insistance, bon, s'il traverse des périodes difficiles pour lui, par exemple un déménagement, une perte, un décès d'un grand-parent, là, je crois qu'un chien, ça peut être quelque chose qui l'aide à traverser cette période difficile, avec tout ce que ça implique. Alors après, effectivement, il y a la responsabilité des parents qui, souvent, vont être obligés de le sortir.
Finalement, peut-on grandir sans animaux? Alors, oui, on peut grandir sans animaux, mais il faut savoir quand même que même sans en avoir un au quotidien à la maison, les animaux font partie de notre environnement, que ça soit sous forme d'objets, de peluches, comme un nounours que tous les enfants ont à un moment donné dans leur vie. Il faut savoir qu'une famille sur deux en France possède un animal de compagnie. Finalement, si l'enfant grandit à la maison sans animal, peut-être qu'il en croisera chez ses grands-parents, chez des amis. Donc il sera à un moment donné en contact avec une espèce plus ou moins fréquemment. Et puis, il ne faut pas oublier que finalement, l'animal peut ne pas être intéressant pour un enfant. Certains ne sont pas attirés par un chien, par un chat, et ont d'autres centres d'intérêt. Mais finalement, j'aime bien dire que l'animal peut avoir un rôle important dans le développement de l'enfant, et ça peut être une chouette histoire d'amitié pour le développement de l'enfant, à condition que ça soit vraiment un projet de la famille. Il ne faut pas que ça soit subi par les parents, il ne faut pas que ça soit subi par d'autres personnes de la famille, comme un autre frère ou une autre sœur. Et plus l'animal est intégré comme un membre de la famille, et plus tout le monde en tirera des bénéfices.
Projet familial, projet pédagogique, parfois, et ça a été ma dernière question à Marine Grand-Georges, avoir un animal dans la classe, en quoi est-ce intéressant?
Ça peut servir de support pédagogique pour l'instituteur ou l'institutrice, mais aussi, et cela a été montré dans de nombreuses études scientifiques, être un lien entre les enfants, ça renforce la cohésion entre eux. Et il y a même une étude australienne qui est sortie il y a quelques années qui montre que pour des enfants autistes, la présence d'animaux tels que des cochons d'Inde leur permettait de mieux communiquer avec les autres enfants de l'école, donc les enfants au développement typique, et donc une meilleure intégration. Donc les petits animaux à l'école, des lapins, hamsters, cochons d'Inde, oui, à condition bien sûr que ça soit un projet qui est porté aussi bien par le professeur que par l'ensemble de l'école pour que ça soit positif.
Et puis les animaux sont omniprésents dans les fictions qu'on propose aux enfants à l'école et puis dans les histoires qu'on se raconte à la maison, depuis les fables jusqu'aux histoires les plus contemporaines en passant par Pierre Lapin. Vous savez, c'est le premier personnage totalement auquel l'enfant pouvait s'identifier totalement. Un enfant lui-même, il a été créé par Béatrix Potter au début du XXe siècle. Et puis ces animaux ont une autre qualité, ils font lire les enfants. On a parlé de tout cela avec Cola Gutmann, vendredi dernier à l'école des loisirs, son éditeur. Cola Gutmann, c'est l'auteur de la série de romans Chien pourri, illustré par Marc Boutavant. Son prochain numéro paraît le 14 octobre prochain. Il s'appelle Chien pourri et la poubelle a remonté le temps. Et puis le film Chien pourri, la vie à Paris, sort dans les salles ce mercredi, c'est-à-dire le 7 octobre. Mais qui est Chien pourri?
C'est à la fois un vrai chien pourri. Et puis de temps en temps, c'est aussi candide, on va dire, qu'un enfant, ou stupide qu'un adulte, ou les deux.
Il était une fois un chien qui sentait très fort et qui habitait les rues de Paris.
On dirait une vieille serpillière.
Une serpillière? Où ça, une serpillière?
Je m'appelle Chien pourri.
T'es sérieux? Il est un peu foufou parfois, mais il est vraiment génial.
Ça va, vous suivez?
Oui, oui. C'est mon jour de chance. T'en veux, chaplapla?
Cette fois, c'est la bonne.
T'es sûr que c'est aujourd'hui qu'on va découvrir son super pouvoir?
Chaplapla et chaplapla, c'est moi le chat, c'est toi le chat, un ami, une poubelle, et pour nous la...
J'avais écrit un précédent livre qui s'appelait Rose, et la petite fille Rose s'identifiait à Chien pourri. Et c'était un livre où, dans lequel Chien pourri vivait à la campagne, était dans un pays de l'Est. J'avais imaginé qu'il était torturé par des paysans, qui lui filaient du pain de mie, de la vodka, il tombait dans des ravins, enfin c'était horrible. Et puis un copain m'a rappelé l'existence de ce chien et j'ai voulu en faire un vrai livre pour enfants. Et du coup je pense que Chien pourri, voilà, cette naissance fait que c'est un chien spécial. Parce que je ne me suis pas dit, tiens, je vais faire un petit livre tout mignon avec un chien tout mignon pour les enfants. J'ai inventé un chien pourri. Qui pue, qui est moche, qui sent la sardine, qui vit dans une poubelle. Donc, au départ, il était seul. Et je l'ai fait, dialoguer avec un chat écrasé par un camion poubelle qui s'appelle Chaplapla. Après... pour remonter à... J'ai un fils qui a 11 ans maintenant. Et je lui lisais un petit livre pour enfants qu'on avait trouvé dans une brocante. C'était Mickey le chien. C'était sponsorisé par les chaussettes Dédé. C'était tellement mignon et tellement niais. Et on adorait le lire. Et les illustrations étaient très... C'était un livre des années 50-60, c'était, il y a eu une patte vintage qu'on appelle maintenant, mais c'était tout doux, tout... Voilà, et je me suis dit, en fait, j'aime bien cette douceur, mais on s'endormait. En fait, à chaque fois qu'on lisait cette histoire, il s'endormait, et moi aussi. Et je me suis dit, je vais essayer de réveiller un peu les gamins quand même, et de me réveiller aussi, de ne pas m'endormir en écrivant. Enfin, c'est un fourre-tout pas possible, chien pourri. C'est une sorte d'éponge ou de serpillière qui aussi prend ce qu'il y a dans l'époque. Dans le dernier, dans Chien pourri et la poubelle à remonter le temps, là, ça parle plus d'Internet et tout ça, parce que le caniche à franges et le basset ont un ordi, et du coup... Il y a tout un truc avec ce qui se passe aussi actuellement, la popularité. Donc Chien pourri veut être populaire sur Internet.
Mais pourquoi Cola Gutmann avoir fait de ce personnage un personnage qui est un personnage qui s'adresse aux enfants, un perdant?
Parce que je pense qu'ils ressentent ça aussi. Je ne sais pas si c'est l'époque, mais je veux dire, cette différence entre les losers et les winners, je pense que les enfants sont pas là-dedans, ils sont sensibles. Et ils ont en fait une super... Il y a une chose qui est quasi sûre, c'est qu'ils ont un grand sens de la justice et de l'injustice. Les humains sont très, très cruels avec lui, les enfants également. Bon, même s'il y a une sorte de rédemption toujours à la fin, quand même, il s'en prend plein la gueule, Chien pourri. Et je pense que les enfants sont sensibles à ça. Je pense qu'enfant, on passe son temps à trouver des choses extrêmement injustes. Et plutôt que d'adoucir ça, moi, je m'en sers pour les faire se marrer, en gros. Dans Chien pourri à l'école, par exemple, la maîtresse est atroce. Vraiment, elle est atroce. C'est évidemment un personnage de fiction, mais je ne pense pas être hyper loin d'une certaine réalité. Alors, peut-être pas de la maîtresse, mais de comment l'enfant ressent... Je sais pas, un coup de gueule de sa maîtresse ou donc après je joue avec ces sentiments-là en fait. En fait, ce qu'on se permettait, ce que j'ai trouvé en tout cas, ce qu'on arrivait à se permettre en BD, on se permettait pas forcément de le faire dans des romans de première ou de seconde lecture. Là, attention, c'est le livre, c'est le roman, donc faut faire gaffe, faut que ça ait justement une valeur éducative. Et en fait, les enfants, ils s'emmerdent, quoi. Et moi, je le vois bien. Très souvent, ils prennent des BD parce que le roman. Donc, il y a les parents qui font attention, faut que tu lises des romans. Et sauf que le gamin, il a pas forcément envie parce que ce qu'on lui propose, parfois, c'est complètement en décalage avec justement son sens de l'humour qui est hyper développé. Moi, je trouve qu'ils ont un humour hyper développé, les enfants. Je pense toujours à des films de Chaplin, lui qui met son bébé, qui essaye de le mettre à la poubelle, par exemple, dans le kit. C'est vraiment dans les lumières de la ville, tout ça. Je sens qu'il y a toujours... Ça fait partie de Chien pourri. Je pense que les enfants, ils sont capables, justement, d'endurer cet humour qui est assez noir. Mais parce que plus c'est noir, plus c'est vraisemblable et drôle, en fait.
Chien pourri, la vie à Paris sort ce mercredi 7 octobre. Chien pourri et la poubelle à remonter le temps, c'est dans les librairies le 14. Je rappelle aussi le titre du livre où nous avons beaucoup parlé, L'enfant et l'animal, une relation pleine de ressources, de Daniel Marcelli avec Anne Lanchon. Et puis je vous indique que Marine Grandjean publie bientôt L'animal et l'enfant avec troubles du spectre autistique. Chez l'Harmattan, merci à toute l'équipe de l'émission, Avril Ventura et Philippe Baudouin. Ludovic Auger était à la prise de son ce soir. Vous pouvez podcaster cette émission pour l'écouter où et quand vous voulez. Demain à 21h sur France Culture, vous retrouvez Aurélie Luneau pour De Cause à Effet. Bonne soirée.